Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Silence, moteur.
Bah Hamza, tu peux me conjuguer le verbe chanter ou à l'imparfait?
Je sais pas, continuez. Est-ce que de merde? Vous m'angoissez là.
Tu peux me répondre?
Vas-y, arrête de rigoler. T'as vu?
Tu fais rigoler ton camarade.
Mais c'est.
C'est lui qui me fait rire.
J'ai rien dit. J'ai juste dit. Non, madame, s'il vous plaît. Madame.
Tu sors. C'est pas drôle.
On parle pas comme ça, d'accord? Ok?
Je sais pas, hein? Vous croyez que votre lycée c'est Harvard? Eh, hey, mollo, hein. On se calme.
Ah, non.
Bah moi je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire la part des choses. Par exemple, mes problèmes chez moi, ça va me prendre la tête en cours. Moi quand j'étais jeune, on m'a souvent dit que j'arriverais à rien, des trucs comme ça, et j'avoue que si je retourne à l'école, c'est un peu pour prouver que même si dans la vie c'est compliqué, qu'on n'a pas forcément toujours suivi les cours et que c'est compliqué niveau financier, qu'on peut s'en sortir dans tous les cas en fait.
Pour cette rentrée scolaire, Postscriptum donne la parole à celles et ceux qui ont été fâchés avec l'école, les décrocheurs. Nous nous sommes glissés avec notre micro sur le campus Montsouris, dans le 14e à Paris, dans une classe de 21 jeunes aux trajectoires différentes et qui partagent un point commun. Ils ont tous décidé de reprendre le chemin de l'école. De février à juin 2021, ils ont suivi un programme de remise à niveau au centre de formation d'apprentis Cerfal, un programme appelé Booster, gratuit mais sélectif, et qui va leur permettre de passer ensuite en bac pro commerce ou gestion. Et vous ne savez peut-être pas, mais Postscriptum, en plus d'être un podcast, c'est aussi une association. Alors nous sommes allés, Alice et moi, Charlie, animer des ateliers radio auprès de ces élèves pour leur proposer de réaliser une lettre sonore, leur lettre sonore.
Lettre sonore numéro 45. Chers élèves décrocheurs. Cher moi du passé, tu t'imaginais qu'à tes 18 ans, tout changerait très vite, que tu serais indépendante et que la patronne, ce serait toi. À 25 ans, tu n'y es pas encore tout à fait. L'école n'avait pas grand intérêt pour toi. Tu n'en comprenais pas son but final, ça t'a fait perdre beaucoup de temps. Tu as gagné en expérience et appris de tes erreurs passées.
Je suis Amandine, j'ai 25 ans. Je suis déscolarisée depuis l'âge de 15 ans. Ok, alors bah moi déjà je suis d'une famille, on est 4 enfants, je suis la plus petite. J'ai commencé ma vie dans le 77 à Roissy-en-Brie. Et en fait j'ai fait beaucoup de déménagements pendant toute ma vie en fait. Donc du coup j'ai changé, j'ai fait beaucoup d'écoles en fait. Et du coup je pense que c'est l'une des principales raisons pour laquelle... ma vie scolaire n'a pas été forcément très magique, parce que le fait de tout le temps changer d'école, chaque école a son niveau en fait de scolaire. Et à chaque fois j'arrivais dans une école, soit j'étais en retard, soit j'étais trop en avance. Et voilà, en gros en fait j'ai beaucoup déménagé parce que c'était souvent lié à des problèmes familiaux ou financiers en fait. Mes parents ont toujours travaillé en fait, ils ont toujours eu des même au niveau paye, ma mère travaille à la Banque de France. Le bas de l'échelle de la Banque de France, c'est-à-dire elle travaillait dans le self, elle coupait le fromage, elle le servait aux clients. Et mon père, lui, il est chauffeur poids lourd. Donc du coup, ils ont toujours eu un travail avec un revenu qui est quand même, on va dire, chacun gagnait quand même, on va dire, assez bien, on va dire ça comme ça. Ils n'étaient pas au SMIC, mais ils étaient un peu plus, quoi, on va dire. Bah, en fait, déjà, je pense que la personne qui gérait mieux les finances, c'était ma mère. Et mon père, c'était plutôt du genre à pas faire vraiment attention à son argent. Mon père s'est fait beaucoup plaisir sur certains points, je pense. Bah, en fait, mon père, il adore les voitures. Donc, dès qu'il pouvait avoir l'occasion d'acheter une voiture ou acheter des trucs pour ses voitures ou des magazines, des choses comme ça, bah, il pouvait acheter. Et par exemple, rien que pour des magazines, il pouvait des fois dépenser des 50 euros ou 100 euros, alors que c'est que des magazines. Et ma mère, c'était le genre de personne qui veut tout le temps faire plaisir à ses enfants. On est quatre enfants, donc du coup, bah, en fait, elle essayait toujours de faire plaisir. Et tout le temps, même, je me rappelle, par exemple, à Noël, comme on savait que bah, ma mère, elle savait qu'il allait avoir que elle qui allait nous offrir des cadeaux, bah, du coup, elle faisait en sorte des fois de bien nous gâter. Mais du coup, bah, forcément, si elle nous gâte bien, ça veut dire que derrière, va falloir faire attention. Le fait de ne pas savoir bien gérer l'argent, et comme on était assez nombreux et qu'on n'avait pas des gros revenus quand même aussi. Mais au final, en fait, ce qui fait que dans notre vie, bah, en fait, on était tout le temps obligés de faire attention en fait, à ce qu'on allait manger et tout. Je me rappelle quand on était petite, ma mère, elle avait une petite boîte quand on faisait les courses avec plein de bons de réduction. Après, il devait payer certains loyers. Bah, quand on habitait dans un autre appartement, en fait, il devait payer des loyers. En fait, ils avaient plusieurs loyers de retard. Et du coup, comme nous, on était locataires de notre appartement, bah, ils nous ont virés parce que, bah, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne peut plus payer. Que même si on fait des dossiers de surendettement, bah, eux, ils se disent, bon, bah, c'est une perte d'argent, donc on va les virer, quoi. Donc, Alors, le jour où on a été expulsés, en fait, ma mère était chez moi. Moi, j'étais avec ma sœur à l'école. Et en fait, l'après-midi... J'arrive en bas voir mon oncle pour manger, en fait. Et quand j'arrive, bah, je vois ma mère qui est assise dans la salle, dans la cuisine et tout. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censée être à la maison ou au travail et tout. Et elle me dit, bah non, en fait, bah, on a été expulsés. Ils nous ont laissé 30 minutes pour prendre ce qu'on pouvait prendre. Et voilà. Et en gros, bah, on a pu prendre ce qu'on pouvait. Mais en fait, en 30 minutes, comme il n'y avait que elle et mon frère, bah, en fait, ils n'ont rien pu prendre, en fait, de grand, en fait. Donc du coup, bah... Moi, je me suis retrouvée un peu comme une conne parce que je me suis dit, mais du coup, on fait comment? On retourne à l'école cet après-midi ou pas? Genre, bah, ça va se passer comment, en fait? Parce que du coup, ça veut dire que bah, ce soir, je ne peux pas rentrer à la maison. L'école, demain, on va faire comment et tout? Enfin, je ne savais pas trop. À cette époque-là, j'étais en CM1. Bah, d'ailleurs, je l'ai redoublé, cette CM1. franchement, je ne me rappelle plus trop. Ouais. Je devais avoir peut-être 9 ans, je pense. J'allais sur mes 10 ans, en fait. Je n'avais pas encore 10 ans, mais j'allais sur mes 10 ans. Mais en fait, quand ma mère m'a raconté comment ça s'est passé le jour de l'expulsion, j'avais de la colère, en fait, envers les huissiers, envers la police et tout. Et en fait, le fait de... En fait, dans les 30 minutes, vous pouvez prendre tout ce qui vous reste de votre vie, mais tout le reste, vous pouvez l'oublier, en fait. Et nous, on avait des animaux, par exemple. Et bah, en fait, j'ai perdu tous mes chats. Et voilà. En fait, je me suis sentie comme quelqu'un de mauvais, en fait, parce que même si j'étais petite, je me dis, j'ai rien pu faire, en fait. Et du coup, en fait, voilà, c'est que j'étais trop petite et que je pouvais rien faire. Je pouvais pas aider ma mère. J'aurais même plus rien lui dire, en fait, parce que j'avais pas les mots, en fait, pour la rassurer, en fait. Et elle était là, bah, elle pleurait un peu. Elle essayait de se retenir. C'est beaucoup de tristesse, en fait. Et du coup, en fait, ouais, en fait, comme je me suis fait virer, en fait, on s'est fait virer, expulser, en fait, plutôt, vers avril, enfin, à la fin de la trêve hivernale, en fait. Donc, du coup, bah, j'arrivais même plus à suivre. En fait, à la fin, j'allais même plus en cours. Parce qu'en fait, on dormait à l'hôtel ou dans la voiture. Et quand on dormait dans l'hôtel ou dans la voiture, bah, l'hôtel, il était trop loin. Enfin, il n'y avait pas de transport pour pouvoir aller à l'école à l'heure. Et en fait, quand on dormait dans une voiture, quand tu dors dans une voiture, tu ne dors pas assez à l'aise pour pouvoir aller en cours après. Donc du coup, bah, après, à partir de la fin de trêve hivernale jusqu'à la rentrée, bah, en fait, jusqu'au début des vacances, je n'ai pas pu aller en cours parce qu'en fait... bah en fait, déjà d'une, on n'arrive même plus à suivre en cours au final parce que ça devient pas intéressant. Enfin, on s'endort en fait. J'étais pas concentrée sur l'école, j'étais plutôt concentrée sur bah, comment ça va se passer la suite et tout. Et donc, du coup, bah, les professeurs ils ont dit que c'était mieux que je redouble parce qu'en fait, cette année-là, j'avais rien appris du tout en fait. Je savais même pas faire une division. Je me rappelle, la division, c'était quelque chose que je la voyais, mais en fait, je comprenais même pas. Je me disais, ça sert à quoi? Je comprends rien et tout. Et puis, au final, en redoublant, bah, j'ai compris à quoi ça servait vraiment une division, quoi. Donc, heureusement que j'ai redoublé.
Hamza. On a 20 ans.
Hein?
Oui, j'ai 20 ans.
À ton âge.
Je sais, vous allez pas m'apprendre mon âge, déjà, pour commencer. Et c'est juste que le...
Ah, on parle pas comme ça, déjà, d'accord?
Désolé, madame.
D'accord? Voilà. Vous êtes pas en position de vous débattre, d'accord? Vous devez m'écouter, ok?
Voilà.
Moi, je retiens personne. Je retiens que les bons élèves. Si vous êtes ici pour faire la fête ou pour perturber les élèves, c'est pas ici.
Mais déjà, vous connaissez le niveau de ce lycée, madame. Il pue. Ah, il est nul. Il est nul. Vous croyez que je suis ici par plaisir? Je suis ici par défaut, madame.
Bah, moi, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je souhaiterais que dans la scolarité, chaque élève, peu importe s'ils ont eu des échecs ou non, puissent choisir chacun leur programme. Parfois, en fait, lorsqu'on rentre dans l'école, bah, forcément, on se retrouve avec des matières qu'on n'a pas forcément envie de pratiquer. Bah, moi, je renoncerais sur des matières plus scientifiques, parce que je n'aime pas forcément tout ce qui est sciences, donc la physique, chimie, les SVT, ou les mathématiques. Donc, dans mon programme, je me mettrais un maximum de langues, comme l'anglais, le français, de l'allemand, du russe, de l'espagnol.
Genre apprendre à apprendre des vraies choses, pas des choses qui, en fait, eh ben, qu'on remarque après bah, que ça sert à rien. Genre l'art plastique, je vais faire quoi après? C'est nul.
Bah, par exemple, j'aurais bien aimé savoir comment ça... Par exemple, j'ai appris toute seule, mais les trucs comme les impôts, tous les papiers en gros pour, par rapport au logement, les fiches de paye, enfin plein de trucs comme ça. En fait, j'aurais vraiment aimé apprendre ça en cours parce que du coup, j'apprends ça toute seule avec ma mère quand je vois comment elle fait et tout. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment flou. Je comprends pas trop comment ça se passe et franchement j'aurais bien aimé par exemple ça pourrait être une matière qui s'appelle genre la vie en gros de tous les jours ou un truc comme ça, mais genre j'aurais aimé avoir une matière comme ça pour savoir tenir une vie et pas que professionnelle.
Bah puisque tout ça on l'apprend nulle part. Savoir faire des factures, des trucs comme ça, des trucs tout cons mais qui peuvent servir, qu'on n'apprend pas au lycée. Enfin, tout ce qui pourra servir dans la vie pour plus tard, parce que c'est censé servir à ça, le lycée. Il y a une matière qui serait bien, ça serait écologie, pour sensibiliser nos générations, qui sont le futur de la société, bah, savoir faire les bons gestes, comment bien vivre tout en étant comment dire, éco-responsable, je sais pas comment on dit ça. Acheter des produits éco-responsables avec le moins d'emballage possible. Et ouais, voilà, ce serait une matière qui serait déjà beaucoup plus intéressante que savoir faire des équations, quoi, enfin, je trouve.
Eh ben, dis donc, comme ça, c'est pas comme ça qu'on parle à une principale.
Je suis désolé, à un moment, il faut que je craque. Je suis désolé, là, depuis le début...
Bah, si vous craquez, vous venez plus en cours.
Eh ben, c'est ce que je vais faire, madame. Voilà, bah, je vais aller trouver un travail et je vais passer devant le lycée.
D'accord.
Et quelle heure, là? Bah, dans 5 minutes, je me casse, moi, de toute façon.
Bah, apportez, si okay. Allez, bon débarras, revenez plus. Hein. Voilà, bravo.
Chère école, je pense que toutes ces difficultés que j'ai eues ne viennent pas de toi, mais des problèmes plus personnels. Je m'en veux de t'avoir lâché comme ça, j'ai ressenti les conséquences un peu plus tard, mais je m'en sors tout de même. Aujourd'hui, je reviens sur tes bancs et sache que j'en suis très fière. Je m'appelle Mareva, j'ai 17 ans et j'ai décroché l'école il y a un an. J'ai grandi à Sceaux dans le 92. Alors moi, je vis qu'avec ma maman. Ma mère, elle n'a pas pu être trop là pour moi parce qu'elle n'a pas fait suffisamment d'études pour me suivre tout au long de ma scolarité. Elle a été jusqu'en seconde, je crois. Et bah, elle n'a pas pu reprendre les cours parce qu'à l'âge de 17 ans, bah, elle a eu mon frère, mon plus grand frère, en fait. Là où c'est devenu un peu plus compliqué, c'était au collège. Quand j'ai eu 11 ans, ma mère, elle avait un nouvel homme dans sa vie. On est parti déménager à Bordeaux, chez lui. C'était sa maison, en fait. Puis bah, là-bas, j'ai été un petit peu harcelée. Bon, après, on est petit, ça arrive, mais c'était quand même dur pour le mental. Du coup, j'ai un peu décroché les cours. Mais en fait, j'ai compris que j'étais harcelée à partir du moment où en fait, j'ai remarqué que ceux qui s'en prenaient à moi, c'était souvent bah, les brutes. On appelait ça comme ça. Bah, c'était la brute de mon école, en fait, elle, c'était quelqu'un de très violent quand même pour notre âge. Et il y avait aussi la fille populaire, comme un peu dans les films, qui s'en prenait à moi. Et en fait, à ce moment-là, en sixième, c'était plus des insultes et des critiques, quoi. Ça m'a mis mal dans ma peau parce que j'étais rondelette et il jouait aussi là-dessus. Mais ouais, je me suis vite retrouvée seule. J'avais une amie, je me rappelle. Mais cette amie-là, elle n'était pas très appréciée non plus. Et du coup, ça a empiré. J'étais encore plus critiquée. Puis les profs, ils le savaient, mais ils n'ont rien fait. Ils se sont dit, c'est sûrement un truc d'enfant. Au final, ce n'était pas rien de grave, puisque moi, ça m'a mis mal dans ma peau. Ça a empiété encore, jusqu'à maintenant, sur la confiance en soi. Je trouve ça très drôle maintenant avec du recul, mais c'était vraiment pas drôle sur le moment. J'étais en cours, il était 8h du matin et j'avais un prof qui me terrorisait. Il me terrorisait parce qu'il était très grand, il avait l'air un peu méchant, il était taquin avec les élèves, mais c'était de la taquinerie un peu méchante, je trouvais. Et en fait, un jour, il m'a demandé de passer au tableau. Et j'avais vraiment pas envie de passer au tableau. Du coup, j'ai dit non. Et du coup, y en a beaucoup qui étaient dans ma classe qui disaient « Ah, elle fait la rebelle », des trucs comme ça, mais pas du tout. Et en fait, vu qu'il commence à hausser la voix et tout, je me rappelle que je m'étais fait pipi dessus. J'avais eu très, très peur. Et en fait, le prof, au lieu de m'aider, il m'a juste dit « Va voir quelqu'un, il va te changer », des trucs comme ça. Et je sais que les élèves derrière, ils étaient tous là à rigoler, des trucs comme ça. Même ma seule amie que j'avais, elle rigolait alors que c'était vraiment pas drôle. Enfin, ça se voyait clairement à ma tête que j'étais vraiment très très mal. Et je m'en souviens, après cet épisode, je voulais plus revenir en cours. C'était horrible. Au début, c'était... Au début, ma maman pensait que je faisais ma crise d'adolescence précoce, en fait. Sauf que pas du tout, je m'en prenais après tout le monde, des trucs comme ça. Du coup, on est allé voir un médecin. Et en fait, le médecin, il a dit que en gros, j'avais un début de dépression infantile, mais c'était rien de grave. Mais au final, en fait, ça a empiré. Et je suis restée 4 ans en dépression. Et en fait, je me suis vraiment recueillie dans la nourriture, des trucs comme ça. Donc j'ai pris énormément de poids. Quand on est mal dans une école, impossible de travailler, ça sert à rien. Moi, j'arrivais à l'école, je dormais ou alors je restais chez moi, quoi. Et je faisais semblant d'être malade. Je m'en rappelle une fois, j'avais fait un truc vraiment bête. Je m'étais fait vomir pour que ma mère croie que j'avais vomi.
Là, je suis vraiment choquée, là. Je suis choquée. C'est quoi ce comportement inadmissible?
Je sais pas, je me détends, non, je sais pas, genre j'ai rien à faire ici.
En classe, madame.
Mais non, je suis pas en classe, j'ai rien à faire ici, moi j'ai pas d'avenir. Ça, vous comprenez pas, vous savez en fait ce qui va se passer là, c'est que je vais prendre mes clics et mes claques et je vais me tailler. Parce que moi ici, j'ai pas d'avenir, je sais pas ce que je vais faire, je vais sortir de votre lycée là. Moi,
c'est votre problème, hein. Là c'est votre avenir qui est en jeu, c'est pas mon avenir.
Mon avenir, il est pas ici.
Ma mère, comme elle voyait que c'était vraiment compliqué... qu'on dorme dans une voiture ou même à l'hôtel parce que ça faisait quand même beaucoup d'argent vu qu'on était plusieurs enfants et tout. Du coup, elle s'est renseignée auprès de la Banque de France s'il n'y avait pas moyen de trouver en dernier recours une colonie pour le mois d'août avant d'intégrer justement le pensionnat en fait, pour qu'en fait on ne soit pas dans les problèmes justement et qu'eux puissent s'organiser tranquillement aussi de leur côté pour pouvoir essayer de récupérer des vêtements ou des choses comme ça parce qu'en fait du coup on n'avait plus de vêtements, on n'avait plus rien. On est parti en colonie et après, dès que la colonie a été finie, peut-être une semaine après, même pas, on est parti en pensionnat en fait. Mais c'est vrai, justement, ça a été l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai pas fini en foyer d'accueil. C'est parce que comme elle travaillait à la Banque de France, j'ai pu faire un pensionnat qui était lié avec la Banque de France. Du coup, je suis quand même une privilégiée dans un certain sens, parce que j'aurais pu finir bien plus mal en fait. Et après, le pensionnat, dans un sens, au début, j'étais un peu mal à l'aise de commencer le pensionnat, parce qu'en fait, j'étais la plus jeune. J'étais la seule qui était en primaire en fait. Et tous les autres, ils étaient minimum en quatrième ou troisième. En fait, la plupart, c'était quatrième, troisième ou lycée directement. C'était compliqué au début. Et en fait, moi, mon seul objectif, c'était de rentrer à la maison parce qu'à la base, même si ma mère me disait que ça serait super bien d'aller en pensionnat parce qu'elle-même l'avait fait, ce pensionnat-là et tout, qu'on pouvait avoir des activités comme faire du ski, des choses comme ça, enfin que c'était une grande aubaine pour nous, Moi, je ne le voyais pas de cet œil-là, en fait. Pour moi, c'était... c'est parce qu'on s'est fait expulser qu'on se retrouve là. Et donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une envie d'aller là-bas, c'est une obligation, comme une prison, en fait. Et donc, du coup, ma mère me disait toutes les années, quand on a, à partir du moment où on a récupéré un appartement, toutes les années, elle me disait « T'inquiète pas, l'année prochaine, tu pourras rentrer à la maison. T'inquiète pas, l'année prochaine, tu pourras rentrer à la maison. » Et au bout de 4 ans, j'ai vu que c'était du mensonge. Elle me disait tout le temps ça, et en fait, je me disais, mais en fait, elle me prend pour une débile, on va voir qui est la plus débile. Et du coup, j'ai fait la grosse débile, et je me suis dit, vas-y, je me fais virer. Je me suis clairement sabotée dans le sens où je parlais très mal au professeur, je me comportais d'une manière très mauvaise. J'étais en 5e à cette époque-là, et j'étais en totale chute libre au niveau scolaire. Je me rappelle, mes derniers bulletins de trimestre, c'était... peut-être 3 de moyenne, 5 de moyenne générale, parce qu'en fait, je faisais vraiment plus aucun effort, en fait. Même si parfois, je pouvais connaître les réponses, je faisais même plus l'effort de les donner, en fait. À partir du moment où je suis rentrée de chez moi, où je m'étais fait virer, les relations avec mes parents, c'était déjà un peu dégradé, mais elles étaient vraiment dégradées, c'est-à-dire que je leur parlais vraiment plus, en fait. Quand on se parlait, c'était... on était saoulés, en fait, l'un de l'autre. Ouais, j'ai fait tout ça pour être avec mes parents, et puis au final, quand je rentre, ça se passe pas du tout bien. En fait, c'est parce que... depuis que quand j'étais partie en pensionnat, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, c'est qu'à la fin, j'étais plus occupée par mes trucs à moi. Et en fait, quand ma mère m'appelait, des fois, en fait, je répondais même plus au téléphone. À la fin, moi, je leur parlais plus. En fait, quand je leur parlais, c'était que pendant les vacances. Et je leur parlais de temps en temps, en fait, quand ils apprenaient des mauvaises nouvelles, en fait, quand ils apprenaient par exemple que j'avais fumé, par exemple, là ils allaient m'appeler, ouais, t'as fumé, des choses comme ça. Ou quand par exemple j'avais fait une grosse bêtise, des choses comme ça, en fait, on m'appelait plus que pour quand il y avait des grosses bêtises. Donc du coup, en fait, j'avais plus vraiment l'habitude de parler avec mes parents. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, en fait, toutes mes illusions à dire que j'avais de comment c'était avant, c'est plus pareil parce que déjà d'une, j'ai grandi entre temps. Et moi, dès qu'on me faisait des réflexions, qu'on me le dit d'un ton sec, je m'emportais très vite, en fait. Et donc, du coup, on s'embrouillait tout le temps. Et du coup, à la fin, c'était pas du tout comme ce que je m'imaginais. En gros, c'est comme si on s'était éloigné en vrai.
Bonjour.
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 Asseyez-vous.
Vous savez pourquoi vous êtes convoqué ici, monsieur Bueno ?
Non.
Nous avons convoqué vos parents il y a déjà un mois. Personne n'est venu, personne n'a répondu. Donc aujourd'hui, vous atterrissez en conseil de discipline. On va régler quelques affaires.
J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans mon verre, en fait.
Je me permets de prendre la parole pour vous dire que j'ai remarqué que... Lies, il a été accusé d'avoir mis des laxatifs dans le verre de monsieur Quelong ici présent, et j'étais présent et je peux attester que c'est faux. Il a fait des efforts depuis le début de l'année, et que je trouve que on n'en parle pas assez de ça, parce qu'au début il était beaucoup plus absent que maintenant, et là depuis quelques temps il a grandi un peu.
Il vient plus en cours, mais si c'est pour mettre des laxatifs dans le verre de son prof d'SVT, c'est il n'y a pas vraiment d'évolution dans son comportement, ou que ce soit dans son comportement ou son assiduité.
Il n'y a aucune preuve que ce soit moi. Zéro preuve. Et s'il y a des preuves, j'aimerais les voir.
Il y a ton empreinte qui a été retrouvée sur mon verre. 5 laxatifs qui ont été mis dans mon verre. L'ADN a été retrouvé. L'ADN correspond bien à Kader Bueno. C'est bien vous.
Ok, on va parler de ça plus tard.
Pour clôturer ça, nous allons vous exclure, mais définitivement. Après plusieurs rappels, je suis désolé, mais ça va, c'est fini pour vous, hein, monsieur Bueno.
Cher moi du passé, à mon âge, tu pensais peut-être que tu passerais le bac sans fournir d'efforts. Eh bien non, un bel avenir ne tombe pas du ciel, malheureusement. Ne néglige pas les cours, parce que tu vas galérer. C'est même carrément dur, mais toi, t'es bien tombé. Tu as quelques années de retard, mais rien de grave. Alors sache que les cours, c'est plus important que tu ne le penses. On sait toutes les deux, toi du passé et moi d'aujourd'hui, que tu as le courage et la persévérance. Heureusement que tu es têtu. Arrête d'être insolente, ça va te causer des torts. Tu as une bonne étoile, sache-le. Le futur te réserve quelque chose de bien. Tu vas retourner à l'école et tu vas trouver ta voie. Je suis revenue à Sceaux, parce que ma maman s'était séparée de mon beau-père. Du coup, je suis revenue à Sceaux. Et en fait, j'ai gardé le même rythme scolaire, comme si je me faisais toujours harceler, sauf que pas du tout. Du coup, je loupais beaucoup plus les cours. Je travaillais beaucoup moins, enfin, c'était devenu vraiment catastrophique. Je m'en rappelle, j'avais 8 de moyenne générale. Malgré ça, je suis toujours passée dans les classes supérieures, jusqu'à la troisième. En troisième, là, on m'a dit que clairement, mon niveau, il est beaucoup trop bas parce que j'étais dans quand même un bon lycée. Enfin, c'est un collège-lycée, en fait. Et ils m'ont dit que le niveau était beaucoup trop bas pour que je puisse faire mon lycée là-bas. Donc, ils m'ont dit que le pro, ce serait mieux pour moi. J'ai recherché du pro, mais en troisième, on ne connaît pas grand-chose. Du coup, j'ai un peu pris le premier truc qui m'était venu. Donc, c'était de la gestion d'administration dans un lycée privé. La première année, c'était bien, sauf que c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers copains. En seconde, je fais ma rentrée en septembre. Et en octobre, j'avais déjà repéré un garçon. Et en fait, à une soirée, donc ça matche bien. Et c'est ma première fois. Donc on a eu une relation sexuelle qui n'a pas abouti sur une relation amoureuse parce qu'en gros, je lui ai expliqué que mes sentiments, ils n'étaient pas trop là et que moi, ça ne m'intéressait pas d'être en couple et que ça me prenait un petit peu la tête. Et en fait, il l'a vraiment mal pris et de là est partie les insultes, que j'étais une connasse alors que ce n'était pas ça. C'était juste que notre mentalité ne se suivait pas, on n'était pas pareil. Il m'a dit qu'il commençait à tirer des rumeurs et tout sur moi. Du coup, j'ai tout de suite vu l'harcèlement arriver direct. Et dans sa classe, il a commencé à raconter qu'on avait couché ensemble plusieurs fois, des trucs comme ça, alors que moi, je regrettais déjà un petit peu d'avoir couché avec lui. Et en fait, il m'a mis vraiment mal parce qu'il disait que j'étais une pute à tout va, des trucs comme ça, alors que pas du tout, ça a été ma première fois. Et puis en fait, il y avait plein de gens au fur et à mesure du temps qui venaient me voir en me disant « c'est vrai que t'as fait ça » ou par exemple, je me rappelle, le pire truc que j'ai entendu, c'était quelqu'un qui était venu me voir sur les réseaux qui m'avait dit « apparemment, tu as tourné entre une classe ou deux classes, des trucs comme ça, mais tourner, par exemple, c'est j'ai couché avec tout le monde. » Et je te dis pas du tout, c'est pas vrai. Et arrêtez de venir me dire des trucs comme ça, parce que ça allait trop loin. C'était sur les réseaux, dans la cour. C'était arrivé au point où même il y avait des gens qui trouvaient mon snap alors que je les connaissais même pas. Des trucs comme ça. Et donc, ça allait beaucoup trop loin, en fait. En fait, j'avais l'impression d'être mise à nu, en fait, devant tout le monde. Là, on va dire que c'était pire que la sixième parce que du coup, on est en seconde, on a 15 ans, on a notre vie privée. Je sais pas comment dire, ma mère, c'était hors de question de la mettre au courant. Elle le sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est là qu'a commencé ma phobie scolaire, en fait. C'est à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à être absentéiste. Mais j'ai arrêté d'aller en cours en première parce que l'année de première, quand je l'ai commencé, c'était pire à chaque fois que j'allais en cours. Ça m'arrivait de faire le trajet. D'arriver devant mon lycée et de repartir, en fait. C'était devenu vraiment dur. En fait, c'était même pas une question de concentration. En soi, j'arrivais à écouter quand le prof parlait ou quelque chose comme ça, mais en fait, c'est plutôt l'échauffement au fond de la classe. Quand tu sais que ça parle de toi et que du coup, tu vas fondre en larmes, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de venir. Tu vas aller en cours, tu vas pleurer, tu vas rentrer, quoi. Donc, vu qu'il se passe ça, les cours, tu n'y pars t'en foutre et tu te fixes que sur ce que les gens pensent, alors qu'en soi, c'est pas du tout ce qu'il y a à faire. En fait, moi, je disais à ma mère, ça me plaît plus, je vais changer d'établissement, des trucs comme ça. Des fois, le lycée, il appelait ma maman et ma maman, elle disait non, elle est malade, elle viendra pas, même si elle savait pas réellement pourquoi je venais pas. Ma maman, elle était de mon côté, en fait, et c'était un peu comme si elle s'en foutait un petit peu que j'y aille pas, mais tant mieux d'un côté. Du coup, après mes 2 mois de lycée en première, il se passe le néant, vraiment rien du tout. Je reste chez moi presque tout le temps. J'ai pas d'école, j'ai aucun travail. Je restais couchée jusqu'à 16h, des trucs comme ça. J'avais pas une bonne hygiène de vie. Je mangeais quand ça me plaisait, des trucs comme ça. Et vraiment, je sentais très clairement que j'étais en roue libre. Ça me plaisait pas du tout. Bah, en fait, je pense que j'avais 16 ans du coup quand j'ai arrêté les cours. Et je pense qu'au fait, c'est la routine. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est trop. Je peux pas rester comme ça. Et puis même, je sais que j'ai les capacités pour réussir, même si j'ai pas tout qui s'ouvre à moi, mais c'est horrible quand on fait rien, quoi.
Cher moi du passé, arrivé en 6e, c'est le début de la fin. Tu découvres un nouveau monde et de nouvelles têtes. Tu suis tes amis, tu fais des conneries, tu penses juste à rigoler et ta curiosité reste aux portes de l'école. À la fin, la seule chose à laquelle tu penses, à ce moment-là, c'est rentrer à la maison. Tu avais préparé ton plan d'évasion, à ce moment-là, c'était l'exclusion. Mais aujourd'hui, à 25 ans, tu retournes sur les bancs de l'école, tu finiras par comprendre que ça va te mener plus haut que si tu étais resté sans diplôme. J'ai rien fait en fait parce que j'ai pas trouvé d'école. Enfin, honnêtement, j'ai pas cherché d'école parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait même pas besoin de chercher d'école. Je m'étais dit, j'arrive à 16 ans, donc je les ai pas encore, mais j'y arrive, donc voilà. Ma mère, elle m'a dit, écoute, tu peux arrêter l'école si vraiment ça te saoule, tu l'arrêtes. Mais par contre, derrière, t'as intérêt à travailler en fait. Tu vas pas rester à la maison à rien faire et tout. Et donc, du coup, en fait, je suis partie un peu chez l'un de mes oncles. Et du coup, comme lui, il avait deux enfants, en fait, il m'a dit, écoute. Si tu veux vivre ici et tout, si tu veux, tu peux garder mes enfants. Et en échange, je te paierai un petit peu d'argent et en même temps, tu pourras vivre ici. Et du coup, j'ai accepté directement parce que ça me permettait de plus être chez moi. Parce que du coup, déjà chez moi, je partageais ma chambre avec mes frères et sœurs. Alors chez mon oncle, je suis restée à peu près de mes 15 ans jusqu'à mes 16-17 ans à peu près. Je chantais qu'en gros, on m'utilisait un peu, en fait. Par exemple, en fait, j'étais payée 3 euros par jour, plus, nourri, logis, blanchi. J'avais le droit à un paquet de cigarettes par semaine. Je les aidais à faire les courses, je les aidais à faire à manger, des choses comme ça. En fait, je faisais du ménage. Au final, j'étais comme une femme à tout faire. Et au final, pour juste 3 euros et un paquet de cigarettes par semaine, au final, moi, au départ, ça ne me dérangeait pas parce que j'y voyais un avantage. Mais quand on voit qu'au final, les personnes, elles profitent plus de la situation que nous-mêmes, on a l'impression que vraiment que là, on nous utilise, quoi. Et en fait, c'est clairement le cas dans un certain sens aussi. Parce qu'eux-mêmes sont adultes et ils savent très bien ce qu'ils font. Et du coup, je ressentais le décalage parce que du coup, je me disais, en vrai, je pourrais être là avec mes amis, en fait. Enfin, je pourrais me faire des amis et être à l'école et tout. Enfin, et du coup, en fait, à chaque fois, quand je parlais avec des gens et que tout le monde me faisait comprendre que je perdais un peu mon temps, c'est ce que j'ai fini par me dire aussi, que je perdais mon temps. Ça finit par me saouler, je rentre du coup chez moi. Et du coup, moi, quand je retourne chez moi, ma sœur commence à revenir, en fait, parce qu'elle a 18 ans. Et en fait, au départ, elle travaille au McDo, en fait. Et en fait, elle me conseille vivement de travailler à McDo. Elle me dit, écoute, tu sais, c'est une première expérience là-bas. En fait, tu travailles là-bas, ça va t'ouvrir les portes de tout, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, m'a aidé à rentrer là-dedans. Et en gros, ça s'est très mal passé, en gros. Et déjà, j'aimais pas du tout la restauration. Et en fait, pendant tous ces temps-là, en fait, à chaque fois, je me disais toujours, je devrais peut-être reprendre l'école. En fait, pendant tout le temps, même quand je travaillais, quand j'étais là à garder mon cousin et ma cousine, j'aimais toujours pas forcément l'école en soi. Mais en fait, ce que j'aimais bien, c'était d'apprendre certaines choses et le fait de pouvoir prendre des diplômes. En fait, parce que comme je l'ai remarqué dans mes débuts de travail, en fait, quand on n'a pas de diplôme, les autres personnes nous perçoivent comme des manqueriens. Et en plus, même au niveau confiance, j'ai l'impression que j'ai moins de culture générale que les autres. Et du coup, je me sens à l'écart un peu. Un peu comme si que j'étais... j'ai pas forcément envie d'être dans le moule total, mais j'ai pas non plus envie d'être considéré comme un paysan, en fait. Donc pendant tout ce temps-là, je réfléchis à reprendre des études. Donc du coup, en fait, je suis allée à Pôle emploi.
pour un rendez-vous simple. Et en fait, je leur ai fait comprendre, bah écoutez, en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est une aide. Une aide, en fait, un soutien physique et mental, en fait, dans un certain sens. Chez moi, j'ai pas forcément les bonnes personnes pour m'aider à bien entreprendre ma vie professionnelle et tout. Et je sais pas exactement ce que je veux vraiment faire et tout. Et donc, Pôle emploi, vous êtes là pour nous aider. Donc, je pense que vous avez des gens qui peuvent nous aider. Et au final, ils m'ont proposé une psychologue du travail. Et avec elle, du coup, on a fait des petits tests, savoir en fait un peu mes traits de personnalité, en fait, mes intérêts et tout. Enfin, elle m'a dit, je vois que par rapport à ce que vous avez fait comme expérience, le commerce, ça pourrait vous intéresser, étant donné que vous avez déjà un pied dedans. Et en fait, par un hasard, un très bon hasard, elle est tombée sur une formation booster qui démarrait en fait le mois suivant. En fait, je l'ai vue à la fin janvier. Et en fait, elle a appelé vraiment au dernier moment. Elle aura vraiment fait en sorte que je puisse avoir un rendez-vous pour un entretien collectif. Et au final, ça s'est très bien passé. Et en fait, moi, j'étais très contente. C'était le fait de pouvoir faire un bac pro commerce, mais en alternance, en fait.
Alors, bonjour, madame. Je faisais mon cours, comme tous les jours. Et votre fils a décidé de débarquer dans la classe et de m'allumer avec un extincteur. Pendant 30 secondes, je dirais. Ça m'a beaucoup attristé, parce que j'ai dû vendre mes vêtements préférés. Enfin, les jeter, quoi. Et en racheter de nouveaux. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me remboursiez, parce que ça fait cher, quoi. Parce que je vais pas laisser passer ça. Et qu'il mériterait vraiment.
Je comprends tout à fait. T'as quelque chose à dire pour te défendre ou pas?
Mais j'ai rien à dire, parce que moi, j'ai trouvé ça marrant. C'était drôle de l'allumer. Et je vois pas pourquoi je devrais être sanctionné pour ça. C'est rien du tout, en vrai, de vrai.
Donc ça ne vous dérange pas si on vient à vous exclure définitivement du collège ou...
Vous dramatisez toujours tout. Vous voulez m'exclure parce que j'ai allumé un prof, c'est rien du tout.
Mais est-ce que vous pensez que tous les élèves de ce collège font ça?
Non, j'ai jamais dit ça. Mais il n'y a pas besoin de m'exclure définitivement pour ça.
Je sais pas. Si j'étais ministre de l'éducation nationale, tout d'abord, je ferais en sorte que tous les conseillers d'orientation se sentent un peu moins des trous du cul. Enfin, plein de trucs comme ça, genre on m'a mal orienté, je suis parti au CIE plein de fois. Tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent, ils n'ont pas su bien faire leur travail en vrai, carrément. Déjà, en fin de troisième, on nous dit clairement, en gros, hein, si tu vas en général, c'est bien, si tu vas en pro, c'est un peu moins bien, si tu vas en CAP, c'est encore un peu moins bien, alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Genre quand tu sais clairement ce que tu veux faire dans la vie, que tu fasses un CAP, un bac pro, un doctorat, un BTS, tout ce que tu veux, genre... Si tu fais le métier de tes rêves à la fin, genre c'est ça le plus important quoi en soi. Et voilà. Je trouve ça dommage que les conseillers d'orientation que j'ai vus, genre ils aient pas été capables de bien m'orienter. Dès la troisième, on nous dit tu dois choisir ce que tu dois faire dans ta vie. Et en vrai, à 15 ans, 16 ans, c'est trop petit pour savoir ce qu'on veut faire la plupart du temps. Parce qu'il y a plein de métiers, ça se trouve, je les connais même pas. Et ça me correspondrait de ouf. Et du coup, je peux pas savoir parce que je les connais pas. Je sais pas, il y a des mécanos, ils gagnent archi bien leur vie. Même s'il n'y avait pas de déboueurs, on ferait comment? S'il n'y avait pas de gens qui débénissent, on n'aurait pas de table. Il y a plein de métiers comme ça, on n'en parle pas trop, mais on peut bien gagner notre vie avec, même s'ils sont manuels. Et faudrait que dès la quatrième, la cinquième, il y ait des intervenants qui viennent de plein de métiers différents, même des métiers que tout le monde s'en fout, personne calcule, pour qu'on puisse avoir une idée, se dire ouais. Ce métier-là, il est cool. Ce métier-là, il est un peu moins cool. J'aimerais bien faire un stage dans cette entreprise-là sans attendre forcément la troisième, etc., etc. Genre de pouvoir voir tous les métiers qu'on peut faire, quoi.
Chers décrocheurs, chères décrocheuses, je sais que l'école, c'est compliqué pour certains. Peu importe les raisons, il faut s'accrocher. Je parle en connaissance de cause. La vie scolaire, c'est dur, mais sachez que rien d'autre ne compte plus que vous. Surmontez les différents obstacles et vous trouverez votre trésor. Rien ne tombe du ciel, même pas la réussite. À chacun sa mine d'or. Moi, le déclic, c'était que être chez soi, rien faire, seul, attendre que nos amis sortent des cours, des trucs comme ça, moi, je pouvais pas. Enfin, ça m'énerve, en fait. En fait, la maman de mon copain, elle m'aimait vraiment, enfin elle m'aime bien, parce qu'elle voyait très bien que j'étais motivée. Et elle savait aussi que ma maman, elle pouvait pas trop m'aider parce que ma maman, elle a pas forcément les capacités pour. Et donc, vu qu'elle a vu que j'avais des capacités pour réussir, elle m'a dit écoute, Maréva, si j'étais toi, j'irais à la mission locale. Moi, j'ai écouté ses conseils, je suis allée à la mission locale. Et donc, la dame de la mission locale, ça a été compliqué, mais elle a trouvé du coup le booster. Et au final, c'est vrai que c'était beaucoup mon copain et sa maman qui m'ont poussé à retourner en cours, quoi. Et puis de chercher une alternance. Moi, mon projet est tout tracé. J'aimerais faire un bac commerce pour ensuite déboucher sur un BTS NDRC, négociation, digitalisation, relation client. Donc, c'est vachement la relation client, comme par exemple la vente, vente avec les clients, la négociation. J'aimerais me spécialiser là-dedans parce que j'aimerais devenir vendeuse automobile pour passer chef de groupe, puis chef de hall et concessionnaire automobile, en fait. D'où ça me vient, je sais pas trop, mais je sais que j'ai toujours aimé les voitures. Quand j'étais petite, je me rappelle, on m'offrait plein de petites voitures et ça m'a toujours intéressé en soi les voitures, mais c'est vrai que je m'étais jamais dit avant pourquoi pas travailler là-dedans. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est le truc qui me correspond vraiment. En réalité, j'ai plus une passion pour les voitures de luxe, les belles voitures, les anciennes voitures. Et donc là, encore une fois, j'ai envie de prouver que j'ai un rêve et que je l'atteindrai, quoi.
Là, mon plan, c'est de finir la formation booster, qui est une remise à niveau, et en fait, après, d'intégrer un bac pro commerce à la rentrée 2021. Honnêtement, je ne sais pas encore où est-ce que je serai dans 3 ans. La seule chose que je sais, c'est que je veux vraiment être dans le domaine du commerce, parce que en fait, j'aime vraiment vendre des choses et parler avec des gens, en fait. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup avec les gens, qui parle beaucoup avec les gens, et en fait, ouais, j'aimerais vraiment aller le plus haut possible, en fait. Je sais pas encore où je serai, mais je vois grand, en fait. J'aimerais vraiment, par exemple, à la fin, soit manager des équipes ou même diriger une entreprise, en fait. C'est pas en visant bas qu'on atteint les sommets, en fait. Donc,
Je me sens réellement bien parce que je vois mon indépendance arriver, en fait. Je pense que si je pars de chez moi, là, je pourrais devenir la femme parfaite, je pense.
Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé dans le cadre d'ateliers radio que nous avons menés au sein du programme Booster, un programme pour jeunes décrocheurs à Paris dans le 14e. Les improvisations et les discussions collectives que vous avez entendues dans cet épisode ont toutes été enregistrées avec les élèves dans le cadre de ces ateliers. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait pendant nos ateliers radio, on vous en parle dans notre newsletter. Vous pouvez vous abonner dès maintenant, le lien est dans le texte de cet épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.